This is Radio Free Europe.
Benvenutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Bolivie, en Guinée et en Inde. Trois pays à la une d'ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. La revue de presse du jeudi, celle des correspondants d'Inter, passe cette semaine par la Russie et Israël avec Caroline Larson et Étienne Monin. Culture, Isabelle Pasquier à la Villa Médicis. Quel avenir pour cette belle et noble institution? À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur l'OTAN. Réforme urgente compte tenu des nouvelles positions des États-Unis. Tout de suite, on regarde le monde d'ici 2035.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
C'est un exercice de prospective rituelle auquel se livre la CIA et plus précisément le Conseil National du Renseignement américain qui a la charge donc de penser le monde qui vient. Ce rapport était sur le bureau de Donald Trump lorsqu'il est devenu président. Il est désormais disponible en français aux éditions des Arènes les 20 prochaines années. Voilà pour le titre. Bonsoir Bruno Tertrais.
Bonsoir.
Vous présentez ce livre. Expliquez-nous plus précisément encore la nature du document. C'est un travail collectif. Qui a planché?
Ils sont 2500 à avoir planché, c'est pas rien. Alors c'est pas 2500 agents de la CIA, c'est comme vous l'avez dit, le Conseil National de Renseignement, c'est toutes les agences de renseignement américaines, mais c'est aussi des experts de tous les pays qui ont été consultés de manière tout à fait ouverte. Vous savez, les services américains, ils travaillent beaucoup moins dans le secret, sur certaines activités en tout cas, que leurs homologues français. Ils sont même allés consulter des paysans congolais, des entrepreneurs vietnamiens par exemple. Et moi, il m'est arrivé d'ailleurs dans un précédent rapport d'être également consulté pour donner mon avis sur l'avenir de l'Europe, par exemple.
On vient vous voir. Enfin, vous avez quoi? Des universitaires qui viennent vous voir? Des agents américains? Ça se passe comment? Qui viennent vous voir et qui vous demandent...
Là encore, ça se passe de manière tout à fait ouverte. Effectivement, vous pouvez avoir des réunions de brainstorming avec des gens qui se présentent sous leur vraie identité. Voilà, nous travaillons au Conseil National de Renseignement. Alors, on vous paye pas. Hein, c'est pas des activités rémunérées. Moi, je ne pratique pas ça. Mais on va solliciter votre avis en l'espèce, là, effectivement, sur comment vous voyez l'Europe dans 20 ans. Hein, j'avais fait ça il y a 4 ans avec eux et on s'était pas trop trompé. D'ailleurs, c'est assez remarquable de regarder comment ces rapports ont vieilli avec le temps. Et on voit, par exemple, moi, je suis allé ressortir ce qu'ils écrivent en 99, au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Et là, on voit qu'ils avaient effectivement prévu, littéralement, c'est pas toujours aussi dans le mille, mais littéralement prévu l'évolution, la trajectoire politique du régime russe pour les 20 prochaines années.
Encore un mot sur le statut de ce texte. Il sert à qui? Il sert à quoi?
Alors, c'est pas tellement Donald Trump qui est la première cible. Soyons clairs, à mon avis, Donald Trump s'en fiche complètement, mais ça sert d'abord à l'ensemble de la bureaucratie américaine, la diplomatie, la défense, etc. Et puis surtout, peut-être, c'est très lu à l'étranger désormais, ces rapports sont très attendus. Je peux vous dire qu'on se précipite dessus à Pékin ou à Moscou pour voir comment la Chine et la Russie sont vues par les Américains et se positionner en conséquence. C'est d'ailleurs un problème pour les rédacteurs, parce qu'ils savent que ce qu'ils écrivent, ça a un tel retentissement qu'il faut faire attention à la manière dont ils écrivent ces pays. Et d'ailleurs, on en dira peut-être un mot, la Russie est à mon avis décrite dans ce rapport de manière beaucoup plus inquiétante que la Chine.
Quel vous semble être le point crucial, la ligne de force de ce rapport donc, qui essaye de sonder, pas de prévoir, mais d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le monde d'ici 2035?
C'est d'abord son pessimisme. Alors c'est très traditionnel pour les agences de renseignement et pour les gens qui travaillent comme moi dans l'analyse stratégique d'être pessimiste. C'est ça qui fait vendre, entre guillemets, c'est ça qui rend populaire, paraît-il. En tout cas, il est beaucoup plus pessimiste que les précédents. Il dit notamment le risque de conflit majeur n'a jamais été aussi grand depuis la fin de la guerre froide. Il dit aussi nous sommes dans un monde dans lequel les individus, les acteurs non étatiques, les entreprises, les régions, les villes, les ONG, les églises, tout ça, ont de plus en plus de pouvoir grâce à la technologie, notamment l'information et la communication. Et du coup, le monde devient de moins en moins gouvernable. C'est vrai que c'est un rapport plus pessimiste que les précédents.
Où pourraient se dérouler les prochains conflits?
Alors ça, je dirais qu'on a pas forcément besoin des rapports de renseignement américains
pour l'imaginer.
Pour l'imaginer, la question est de savoir où est-ce qu'un grand conflit est le moins improbable. Personnellement, je pense à l'Asie du Sud, entre l'Inde et le Pakistan. Et d'ailleurs, il y a une vignette assez intéressante dans l'ouvrage dont nous parlons, que nous avons traduit sous le thème « Les 20 prochaines années », où il est question d'un conflit nucléaire en Asie du Sud avec le Pakistan. Alors, c'est pas dit que c'est le Pakistan, mais tout le monde sait très bien que ce serait le Pakistan. Et là, effectivement, ça ferait ressembler le 11 septembre 2001 à une partie de campagne, si je me me permettre cette comparaison. Mais sinon, ce sont les classiques. Hein. Chine, États-Unis en Asie, Russie, Europe, Occident, en Europe orientale. Tout ça est assez classique.
On voit mal, Bruno Tertrais, quelles peuvent être les forces pacificatrices à l'œuvre dans les 20 prochaines années.
Oui, alors il y en a quand même. En anglais, ce rapport s'appelle Paradox of Progress, le paradoxe du progrès, parce qu'il y a aussi des points positifs. C'est un rapport qui nous dit tout simplement que la technologie, les progrès technique, c'est absolument formidable. Ça a permis de tirer des centaines de milliers de personnes, notamment en Asie, de la pauvreté et ça va sans doute continuer, même si, dit le rapport, ce sera plutôt l'Inde et une partie de l'Afrique qui seront les relais de croissance dans 20 ans. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait positif. Il y a du positif sur l'Afrique, justement, de l'Afrique subsaharienne. On parle de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne africaine, plus éduquée, connectée, ouverte sur le monde. Et ça, c'est pas toujours un récit, c'est pas toujours quelque chose qu'on entend en Europe, et je crois que ça fait partie des bonnes nouvelles.
Quel avenir pour le populisme ? Il a l'air de bien se porter.
Il a un excellent avenir. Le rapport en parle de manière très ouverte. Alors, ils ont terminé leur rapport le 8 novembre 2016, la veille de l'élection.
Il faudra attendre le volume suivant, soit, dans 4 ans.
Mais on voit le phénomène Trump à l'œuvre dans ce rapport. Et d'ailleurs, je vous rappelle que M. Trump n'entretient pas les meilleurs rapports avec la CIA.
Hein.
Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a aussi un certain pessimisme, avec aussi 3 grands avenirs possibles, selon que cette vague de populisme, on peut l'appeler autrement, continue ou pas. Mais c'est vrai que c'est un phénomène.
Décrivez les scénarios,
durable.
Parce que c'est une question centrale tout de même de la vie politique mondiale.
Oui, c'est un rapport, donc un ouvrage qui s'adresse au monde dans 5 ans, mais aussi, effectivement, du monde dans 20 ans, à l'horizon 2035. Et il y a 3 grands scénarios qui sont dessinés. Alors, le premier, il s'appelle Un monde d'archipel. Moi, je l'ai appelé, en gros, le monde de Trump. Hein. Un monde dans lequel c'est le repli sur soi, c'est la démondialisation. Et en gros, chaque grande puissance essaye de vivre de son côté. Les États-Unis, d'ailleurs, dans ce scénario, se sentiront mieux que d'autres pays. Il y a aussi un autre scénario qui est celui des sphères d'influence. Moi, je l'ai appelé le monde de Poutine, où en gros, les blocs régionaux qui essayent de s'affirmer, de s'élargir au détriment des autres. Donc, a priori, c'est un monde un petit peu plus dangereux, celui de la compétition de puissance. Et puis, le troisième, plus optimiste, toujours à l'horizon 2035, c'est le monde des communautés dans le rapport. Je l'ai appelé le monde de Bill Gates. Si vous voulez, c'est un monde très, très hyper connecté dans lequel les États ont moins de pouvoir au bénéfice des individus, des régions, des villes et des entreprises. Voilà, c'est le seul un petit peu optimiste.
Quelle définition donnent les chercheurs autour de la CIA du populisme ? C'est un concept très difficile qu'on emploie souvent en faisant le geste des guillemets, en disant le populisme entre guillemets, le populisme faute de mieux. Est-ce qu'ils en ont une approche un peu plus constructive ?
Alors, ils essayent, effectivement, il y a de la vraie analyse politique là-dedans, hein, ça se lit pas du tout, c'est pas rédigé comme un rapport de renseignement. Ils décrivent ce phénomène multiforme qu'ils ne qualifient pas seulement, d'ailleurs, de populisme, mais auquel ils ne donnent pas un mot, un terme, une appellation précise, comme un phénomène qui est en partie lié à la déception de la mondialisation, en partie lié à la phénoménale fragmentation de la sphère informationnelle, avec tout ce que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire l'accès de chacun à l'information. On s'enferme dans notre petite bulle et ça crée de la difficulté à vivre dans une vraie communauté nationale et ça crée aussi des vulnérabilités dont des personnalités charismatiques, on pense à Trump, mais on peut aussi penser à Erdogan ou bien d'autres, peuvent s'emparer pour s'installer, se maintenir au pouvoir.
Et donc le scénario Bill Gates est peut-être le plus rose, mais sans doute le moins probable, hein, Bruno Tertrais, à vous
entendre. Je ne sais pas, moi je suis plutôt un optimiste et je suis d'ailleurs une espèce rare dans mon milieu, paraît-il. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est celui des 3 qui est le moins pessimiste, mais il n'est pas décrit dans le rapport comme étant le moins probable. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que ce rapport est celui d'un monde désenchanté qui est revenu de la double illusion de la grande marche mondiale vers la démocratie, comme on a pu l'imaginer à la fin du XXe siècle, et de l'autre désillusion qui est la globalisation, quand on voit effectivement les mouvements de repli qui sont à l'œuvre ici ou là, dans de très grands pays. C'est le rapport de ce moment pivotal.
Oui, mais j'ajouterai une troisième désillusion qui est celle du progrès technique et du progrès sociétal. La désillusion du progrès qui est aussi dans une grande partie de nos sociétés et pas seulement en Occident, mais surtout en Occident, quelque chose de fort. Alors on parle parfois, on a aussi d'autres paradigmes comme celui de la triple crise économique, environnementale, etc. Bon, je pense que ce que vous venez de souligner, quand on y ajoute la déception ou la crainte du progrès. C'est effectivement une conjonction assez nouvelle et probablement durable, en tout cas pour plusieurs années. Mais il y a aussi des forces d'espoir. On voit dans certains pays, y compris en Europe d'ailleurs, des forces politiques un peu plus positives qui arrivent à proposer un autre récit. Et ce récit peut attirer une grande partie de la population.
Alors, je profite de vous avoir sous la main, Bruno Tertrais, pour vous demander comment vous lisez la situation en ce moment à Washington. Washington, nid d'espions. Alors, la CIA écrit, la CIA publie des rapports de prospective, mais les espions parlent beaucoup en ce moment. Il y a un conflit ouvert tout de même entre la Maison Blanche et les services secrets, la communauté du renseignement.
Oui, alors d'abord, sur le désordre ambiant et le mouvement brownien permanent à Washington, moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis Washington de très près, depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu ça, je crois vraiment, c'est tout à fait inédit. Quant au rapport entre les services de renseignement, et plus particulièrement la CIA et la Maison Blanche, effectivement. Alors, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2003, quand la CIA avait accusé la Maison Blanche de lui tordre un petit peu le bras, ou en tout cas de lui faire dire des choses qu'elle ne disait pas tout à fait. C'était bien sûr à propos des armes de destruction massive en Irak. Là, aujourd'hui, on voit un président qui a été pris en grippe, ou plutôt qui a pris en grippe les services de renseignement, mais qui du coup, même si, attention, ce sont des agences très républicaines, leur légitimité va à la Constitution, et on a vu les contre-pouvoirs à l'œuvre aux États-Unis. J'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, les agents de renseignement se manifestent comme un autre contre-pouvoir, comme la justice, comme on a pu le voir à propos de l'immigration ces dernières semaines, comme un autre contre-pouvoir. Elles disent des choses parfois publiquement, parfois sous forme de fuite bien calculée, qui ne plaisent pas forcément au pouvoir politique. Et quelque part, c'est peut-être aussi un signe de bonne santé de la démocratie américaine.
Oui, mais c'est un contre-pouvoir d'autant plus étrange, peut-être même inquiétant, qu'il est occulte.
Il n'est pas aussi occulte, encore une fois, qu'il ne l'est. Je reviens au début de notre conversation. Il est moins occulte que, en tout cas, une grande partie de son travail se fait de manière beaucoup plus ouverte que ce n'est le cas en France. Il y a un mystère du renseignement en France qui est beaucoup moins vrai, en tout cas, encore une fois, pour l'activité ouverte de la CIA. Regardez ce qui s'est passé avec le fameux rapport sur la Russie, sur les cyberattaques russes qui a été diffusé il y a quelques semaines. Clairement, la CIA a dit, voilà, nous, on a fait notre travail. Ça ne plaît pas au président, bah, tant pis. En tout cas, nous, c'est ce qu'on met sur la table.
Quel est l'enjeu, Bruno Tertrais, de l'opposition, du bras de fer, du rapport de force entre la CIA et la Maison Blanche? Qu'est-ce qui est en jeu exactement?
L'enjeu, c'est évidemment la capacité perçue par le président à exercer effectivement son pouvoir de manière honnête, de manière décente et conforme à la Constitution. La démission de Mike Flynn, le conseiller national à la sécurité, à laquelle on a assisté il y a quelques jours, est là aussi un signe de bonne santé de la démocratie, mais je crains que si M. Trump s'emporte, et on sait à quel point il est prompt aux emportements, il peut y avoir une vraie crise, il peut y avoir des démissions, des choses comme ça. Et ça, en tout cas, la période actuelle est durable. On en a au moins pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois. Mmh. Et puis, très franchement, le scénario de l'impeachment, c'est-à-dire de l'empêchement du président, il commence à être un tout petit peu plus d'actualité qu'il y était il y a 3 semaines.
Dernière question, quand vous dites que en 25 ans de travail sur Washington et les États-Unis, vous n'avez jamais vu ça, qu'est-ce qui vous choque ou vous étonne dans la période actuelle, Bruno Tertrais?
Très clairement, le fait qu'on ait un homme derrière le bureau ovale qui non seulement ne respecte aucun des codes, mais après tout, il est élu. On peut pas lui dire, on peut pas lui demander d'être diplomate de carrière. C'est lui qui a été élu, qui est en totale rupture avec le travail normal de l'administration d'un pays occidental. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas légitime. Il est légitime. Il a été élu.
Il a globalement dit qu'il ferait ça.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas vraiment.
Donc il n'y a pas de quoi s'étonner.
Il n'y a pas vraiment de surprise. Mais de voir à la tête de ce qui reste aujourd'hui la première puissance du monde, un homme qui n'a pas la capacité visiblement d'exercer normalement et de manière, j'allais dire, froide, aussi froide que possible, aussi dépassionnée que possible, l'exercice d'un mandat aussi complexe que celui de la plus puissante administration au monde, très honnêtement, et c'est un optimiste qui vous le dit, ça a quelque chose d'inquiétant. Attention, une petite note d'optimiste encore, on ne déclenche pas une guerre mondiale avec un tweet. Il y a, encore une fois, des contre-pouvoirs aux États-Unis.
Merci Bruno Tertrais. Les 20 prochaines années, l'avenir vu par les services de renseignement américains, c'est publié aux éditions Les Arènes. C'est un vrai livre, c'est pas un rapport poussiéreux et austère.
C'est pas mal écrit en plus.
Ça se lit avec plaisir.
Et puis il y a des petites vignettes dont on n'a pas parlé, il y a des événements, il y a des fausses unes de journal, c'est même parfois assez amusant à lire.
Voilà, c'est donc à lire aux éditions Les Arènes. Merci d'être passé au micro d'Inter. À suivre maintenant la revue de presse internationale.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir. Jérusalem Étienne Monin.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
Et comme tous les jeudis, c'est la revue de presse internationale. Avant de filer à Jérusalem, rejoindre Étienne Monin, direction Moscou. Bonsoir Caroline Larson.
Bonsoir.
À Moscou, Caroline, les médias parlent beaucoup de la campagne présidentielle française, ou plutôt des scandales qui émaillent la campagne et des accusations d'ingérence dirigées contre le Kremlin. Fillon, Macron, Caroline, les hackers russes sont de retour?
Oui, depuis mardi, beaucoup de titres russes reviennent sur les accusations portées par l'équipe d'Emmanuel Macron contre la Russie. Des accusations selon lesquelles des cyberattaques déjà décelées en novembre ont atteint un pic ce 14 février, d'après le mouvement En Marche. Il y aurait déjà eu, depuis début janvier, plusieurs milliers de tentatives d'intrusion sur les serveurs, le site, les boîtes mail. Le phénomène coïncide avec l'envolée de Macron dans les sondages. L'hebdomadaire russe Experte revient par exemple sur le sujet en rappelant d'abord que ce genre d'accusation est loin d'être isolé ce mois-ci, puisque les gouvernements italiens et britanniques se seraient eux aussi pleins de piratages attribués aux Russes. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, très vite, l'hebdomadaire cite dans son article certains de ses détracteurs et en premier lieu, le député français Nicolas Dhuicq, interviewé début février par Spoutnik. Le journaliste russe rapporte les propos de Dhuicq qui avance qu'Emmanuel Macron est soutenu par un riche lobby gay et qui suggère que Macron mène une double vie amoureuse. L'article se garde bien de rentrer davantage dans des détails que l'auteur qualifie de croustillants. Par contre, s'il y a bien une chose de tout à fait vraie dans ce qu'affirme le député Nicolas Dhuicq, dit Experte, c'est la nette partialité des médias français dans cette campagne présidentielle. Des médias dont la plupart voudraient favoriser Emmanuel Macron et surtout déstabiliser François Fillon, comme a réussi à le faire le Canard enchaîné, dit l'article d'Experte, dont le ton est tout à coup devenu plus agacé qu'amusé. Il est bien possible, suggère le titre russe, que ce soit Emmanuel Macron et son entourage qui est eux-mêmes dégoté des informations sur Fillon pour les transmettre au Canard enchaîné. Dans ce cas, conclut l'article, le principal bénéficiaire de ce scandale est aussi son organisateur.
Et ce matin, c'est à François Fillon, Caroline, que les journaux russes donnent la parole.
Oui, car justement, François Fillon soigne la Russie. Aujourd'hui, le quotidien Izvestia rapporte les propos du candidat Les Républicains, des propos tenus hier lors d'un déplacement à Compiègne. Fillon veut très fort une nouvelle coopération de la France avec la Russie, dit le journal. Un partenariat qui permettrait de s'éloigner de la guerre froide et de s'allier pour mieux combattre le terrorisme. Le journal glisse également une citation qui va dans le sens de ce que Moscou avance habituellement concernant les relations Europe-USA. « Je voudrais rappeler à nos amis américains que nous sommes leurs alliés et non des vassaux », dit François Fillon. Le quotidien d'État Rossiskaya Gazeta emboîte le pas au journal Izvestia. Le candidat François Fillon appelle à une coopération avec la Fédération de Russie, titré Rossiskaya Gazeta ce matin, un peu plus tard à la mi-journée. Le même journal expliquait sur son site que l'enquête financière se poursuit dans l'affaire Fillon, mais que, comme l'a déclaré l'intéressé, François Fillon continuera à faire campagne malgré le scandale.
Caroline Larson à Moscou, merci. Et bonsoir Étienne Monin en direct de Jérusalem.
Bonsoir Nicolas.
En Israël, Étienne, la presse revient évidemment sur l'accueil chaleureux de Donald Trump hier pour Benjamin Netanyahou et sur ce qu'il reste aujourd'hui de la solution à deux États.
Et le cocktail d'après-soirée a un goût encore indéfinissable dans la presse. On comprend bien que la droite israélienne exulte, mais on sent aussi un profond malaise face au manque de perspective, un peu comme si on avait retiré l'échelle de l'échafaudage sans avoir même le numéro de téléphone de la compagnie censée installer l'ascenseur. C'est lié non seulement à la légèreté des formules qui ont été utilisées devant la complexité de ce conflit, mais c'est aussi lié aux personnalités hors normes de ces deux hommes politiques qui sont au centre du mécano. À droite, il y a donc un souffle pour l'extrême droite. L'idée d'un État palestinien est enterrée. Le drapeau de l'annexion est agité très fort. Pour illustrer, par exemple, il faut voir cette formule utilisée par le ministre des Sciences. Il n'y aura pas d'État terroriste sur la terre d'Israël. Mais avec cette vision, la droite choisit de fermer un œil, explique Ben Caspi dans Mariv. Le journaliste souligne que le président américain a tout de même appelé à la retraite retenus pour les constructions dans les colonies. Le Premier ministre a d'ailleurs dit qu'il comptait ouvrir les vannes dans la partie annexée de Jérusalem, mais rester prudent sur le reste des territoires occupés. Cela dit, l'exercice est réussi pour Benjamin Netanyahou. Il a obtenu ce qu'il souhaitait, le maximum de marge, mais cela le pose maintenant face à ce qu'il déteste le plus, c'est-à-dire devoir faire des choix, ajoute Sima Kadmon dans Yediot Aronot. Maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle américain, eh bien, il va devoir choisir entre le plan A ou le plan B, la solution à deux États ou l'annexion de la Cisjordanie. C'est comme si les panneaux de signalisation avaient disparu et que dans la voiture, maintenant, tout le monde cherchait à tirer dans une direction. Ce choix à assumer, c'est ce que Netanyahou ne sait pas faire, estime Sima Kadmon. Et de toute façon, il n'y aura pas de solution de paix, considère Ben Kaspi, puisqu'il y a un blocage autour de la solution à deux États et une incompatibilité autour de la solution à un État. Donald Trump va donc se retrouver en face des pièces cassées et on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est l'autre donnée psychologique. Trump fonctionne comme une montagne russe, écrit l'éditorialiste. Il embarque Israël dans un mouvement que personne n'arrive à lire ou à anticiper, avec en arrière-fond un arrière-fond très déplaisant. C'est Nahum Barnea qui choisit cet angle. Le retour d'une atmosphère antisémite aux États-Unis. L'ami du peuple juif a ouvert la porte au phénomène, écrit le journaliste, et son élection divise maintenant profondément la communauté juive américaine entre ceux qui se reconnaissent en Jared Kushner, le beau-fils, et ceux qui s'inquiètent de la position occupée par Steve Bannon, l'âme noire, les deux faces contradictoires de l'insondable Donald Trump.
Rien à voir, Étienne. La marque IKEA est brocardée sur les réseaux sociaux chez vous pour avoir épousé d'un peu trop près les spécificités israéliennes.
Oui, comme souvent ici, on passe d'un extrême à l'autre. IKEA, tout de même, soulignons-le, c'est un succès. Ici, il y a 3 magasins et elle vient de lancer un catalogue ciblé pour le public ultra-orthodoxe. C'est un marché important. Les ultra-orthodoxes ont un faible pouvoir d'achat, mais ils ont des familles très importantes. Le catalogue leur propose donc des lits superposés pour les enfants ou des bibliothèques pour les livres saints. Sauf que ce catalogue a fait disparaître les femmes sur les images de représentation. C'est lié aux règles de cette communauté qui interdit la représentation féminine en public. La nouvelle famille IKEA modèle, c'est donc un homme seul avec des enfants, si possible, un livre religieux, et c'est donc sérieusement moqué ici sur Internet.
Étienne Monin en direct de Jérusalem. Merci.
BBC's Brian Hanrahan witnessed.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction la Bolivie, qui tente difficilement de lutter contre la déforestation massive.
Ah oui, et les chiffres sont impressionnants. En 10 ans, entre 2000 et 2010, 1 800 000 hectares de forêt ont été rayés de la carte. Et le phénomène s'est encore accéléré ces 5 dernières années. En moyenne, la Bolivie perd chaque année près de 200 000 hectares de forêt, soit 280 000 terrains de football, ou si vous préférez, l'équivalent de 27 fois Paris chaque année. Bonjour Alice Campagnol, correspondante de France Inter à La Paz.
Bonjour Michael.
Alors pour se faire une idée précise et de l'enjeu et du débat en cours dans le pays, extrait d'abord de ce discours du président bolivien, c'était le 1er décembre 2015, écoutez.
Nous participons à ce sommet pour exprimer notre profonde préoccupation pour les phénomènes dramatiques qui ont lieu et qui menacent de tuer toute forme de vie, et surtout de tuer la Terre-mère. La Terre-mère se rapproche dangereusement du crépuscule de son cycle vital. La cause et la responsabilité de ce déclin sont dues au système capitaliste.
Ce que vous avez entendu, c'est le discours d'Evo Morales à la tribune à Paris lors de la COP21. Le président bolivien montre du doigt les pays dits capitalistes et il ne mâche pas ses mots, on peut le dire. Leur développement a pollué l'ensemble de la planète. Mais la nature et le climat bolivien doivent aussi affronter des menaces intérieures. Le mois dernier, un rapport de l'ONU a placé la Bolivie en 7e position, 7e sur les 10 pays avec le plus de pertes de zones forestières dans le monde.
Alors justement, Alice, quels sont les principaux responsables de cette déforestation ?
Alors, plusieurs causes, Michael, l'élevage, l'extraction minière, l'agriculture, entre autres, le soja, par exemple, c'est l'un des principaux responsables de la coupe des arbres. Mais il y a également une culture propre à la Bolivie et très lucrative.
Mon grand-père cultivait de la coca, mon père, mon arrière-grand-père, moi aussi maintenant je cultive et mes enfants après moi. Pour nous, la coca est un produit sacré. Nous pouvons donner notre vie pour la coca. Imaginez si nous ne pouvions plus cultiver. De quoi pourrait-on vivre ?
Avec une parcelle d'à peine 50 mètres carrés qui peut rapporter jusqu'à 100 euros par mois, difficile pour Carlos de s'imaginer arrêter la culture de coca et de laisser pousser les arbres. Hein. Alcides Poiki est un agriculteur également et il tient à défendre ses pratiques.
La mentalité ici, ce n'est pas de raser les forêts, mais de produire. Couper un arbre pour produire. Raser, couper et abattre les arbres, c'est la seule façon de préparer un terrain.
Bon, et comment les autorités réagissent-elles ? Que font-elles pour arrêter le massacre ?
Eh bien, il est difficile hein, pour les autorités de freiner la déforestation, malgré l'inscription, par exemple, dans la Constitution de la protection des zones forestières et malgré des initiatives diverses, comme ce spot de pub, par exemple.
Dale un regalo a la madre tierra. Plante un árbol en tu comunidad. En el parque de tu barrio.
Mais surtout difficile d'arrêter de couper des arbres quand l'industrie du bois est l'une des plus lucratives du pays. Hein. L'exportation de produits forestiers représente 3% du PIB, c'est un des secteurs économiques d'exportation les plus actifs du pays. Juste après, eh bien, le soja, qui est lui aussi assez dévastateur pour la forêt. David Guever-Jurado, c'est le directeur départemental de ABT, c'est l'autorité de gestion des forêts et des terres, et pour lui, il est évidemment essentiel de protéger les zones forestières, mais il voit mal comment la Bolivie pourrait se développer sans utiliser les arbres.
Le développement de notre pays est l'un des plus importants de tout le continent. Donc, logiquement, cela implique une grande quantité d'activités, l'agriculture, l'industrie, l'élevage. Dites-moi, les pays les plus développés, est-ce qu'ils ont pu réaliser une croissance verte, un développement, disons, durable, sans faire tomber un arbre ?
Donc aujourd'hui, la Bolivie fait face à un défi, se développer tout en respectant l'environnement, nourrir ses habitants et se faire une place sur les marchés internationaux, tout en gardant toujours autant de forêts. Les autorités mettent en place des initiatives de reforestation, à voir désormais si l'effort est suffisant pour contrer le phénomène.
Ouais, on comprend que c'est loin d'être gagné. Alice Campagnol en direct de La Paz en Bolivie. Merci beaucoup.
On file maintenant, Michael, pour une destination, vers une destination de carte postale, les îles de Los en Guinée-Conakry.
Ah oui, authentique image d'Épinal que ce petit archipel, à 40 minutes seulement du centre de Conakry. Un archipel qui a longtemps séduit les aventuriers de tout poil. On raconte que ces îlots de plages sauvages, de cocotiers, de végétation luxuriante ont même inspiré le roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Bonsoir François-Xavier Frelan.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors Vénard, vous étiez sur place il y a quelques jours encore pour une balade qui commence ici même, hein, sur ce petit embarcadère, à côté du grand port autonome de Conakry, et on part en pirogue.
Oui Michael, et quand on part pour l'archipel de Los, bercé hein, par ce diesel du moteur crachotant, on a déjà l'impression de partir pour le bout du monde. Il y a d'abord ces immenses cargos parqués juste à la sortie du port, à la queue-leu-leu, qui attendent de pouvoir rentrer. Et puis il y a surtout ces vieilles carcasses de navires, comme des baleines de métal rouillées. Et Conakry d'ailleurs fut longtemps un cimetière marin. Vous le voyez, on entre dans un décor de légende.
Alors légende, et ce serait donc, qui plus est, l'une de ces îles, source d'inspiration de l'œuvre majeure de Robert Louis Stevenson.
Oui, c'est ce qu'on raconte. En tous les cas, il cite l'île de Room dans son roman, qui était alors sous influence britannique à la fin du 19e siècle. Je vous propose de revenir sur cette époque à travers la voix du plus grand intellectuel guinéen, l'historien et écrivain Djibril Tamsir Niane, véritable mémoire vivante de l'histoire africaine, proche ami du Burkinabé Kizerbo ou encore du Malien brésilien Ampateba. Alors tendez bien l'oreille, ce monsieur est âgé.
Stevenson a développé sa théorie à partir des îles de l'Os. Mais ça, c'est davantage le côté romanesque des îles que la réalité historique.
Il serait passé par les îles ?
Oui, possible, oui. Il est passé par là. Il a situé les événements dans l'île de Rome. Mais il faut savoir que ces îles ont connu une activité intense au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Quelques années avant que les Anglais prennent la décision de supprimer la traite négrière, les îles de l'Os ont connu une très grande activité. Les flibustiers ont fréquenté ces côtes-là et on a beaucoup de récits d'historiens, de géographes, de voyageurs de l'époque sur les actions des pirates.
Ouais, on le comprend bien, hein. C'était donc un haut lieu de commerce, de piraterie, de traite négrière. Un décor parfait évidemment pour un roman d'aventure. Et le trésor dans tout cela, François-Xavier ?
Bah on l'entend, hein. Je vais vous décevoir Michael. J'avais le plan et je n'ai rien trouvé, mais de toute façon, le trésor est ailleurs. Il faut s'imaginer donc ces îles où se pressent quelques touristes le week-end, ce petit paradis caché. Alors des plages de sable fin, vous l'avez dit, des cocotiers, des eaux poissonneuses. Ces îles furent habitées par les Portugais, par les Anglais, puis par les Français, c'est dire l'intérêt qu'elles suscitaient. Les habitants sont d'ailleurs métissés, il reste aussi des traces de cette colonisation. On écoute mon guide, le villageois Ibrahim Somisoma.
On dit ça parce que c'est une île qui est vraiment super, qui est beau. On a tout ici parce que, en fait, on dit les trésors parce que c'est une île que on peut voir tout, on peut cultiver, on peut faire un peu de tout dans cette île. Les bananes, il y a des pannes, il y a des avocatiers, on a encore des élevages aussi, il y a des moutons et le buffle aussi, il y en a.
Donc c'est un peu une île où on peut vivre bien.
Oui, on peut vivre bien.
Ouais, une île paradisiaque hein, pour certains, mais qui fut aussi, faut le rappeler, hein, un bagne cauchemardesque pour d'autres.
Et oui, tout à fait. Sur l'île Fotouba, qui signifie l'île des Blancs. D'ailleurs, on entend ces corbeaux derrière. On retrouve les traces d'un vieux pénitencier, juste à côté d'une église anglicane, qui date de 1870. Elle est en parfait état. Et dans le village voisin, il y a encore les vieilles maisons de maîtres de style colonial. Écoutez les précisions des habitants. On entend d'abord la voix de Camara Bassamba et du guide, donc Ibrahim.
Qu'il prenait les intellectuels guinéens, les enfermer ici.
Il y a eu des hommes célèbres qui sont passés par la prison ici ?
Oui. Il y a Valois, il y a Cheikh Ahmed Kaba et Saifullah Diallo et Alpha Yaya Diallo.
Qui était Alpha Yaya Diallo ?
Alpha Yaya Diallo, il était charge, il était un homme combattant en tant que colonial. C'était un chef guerrier en Afrique de l'Ouest.
Il a résisté aux colons ?
Oui, il a résisté aux colons, puis bon, on a enfermé ça en 1911.
Vous l'avez compris, on y enfermait les premiers indépendantistes. C'était pas réjouissant pour tout le monde, Michael. Et tenez-vous bien, les îles de Los ou de Luz viennent de l'anglais Luz. C'était les îles de la perdition. D'ailleurs, dans le roman de Stevenson, on lit ceci. « Un homme à la mer, dit le capitaine. Ma foi, messieurs, cela nous évitera de le mettre au fer. »
Voilà les îles de Los ou de Luz, comme vous préférez,
les îles de la Luz.
En Guinée-Conakry, reportage signé François-Xavier Frolland. Et pour finir, Nicolas, un record qui, comme tous les records, peut sembler futile, voire totalement inutile, sauf que celui-ci est éminemment politique. C'était fin janvier à Ahmedabad, dans l'état du Gujarat, nord-ouest de l'Inde, 509 261 personnes réunies pour ça.
5, 4, 3, 2, 1.
Plus d'un demi-million d'Indiens réunis donc pour chanter d'une seule voix le Jana Gana Mana, autrement dit l'hymne national indien, devant près d'un million de spectateurs physiquement présents dans l'arène. Record mondial homologué il y a quelques jours par le Guinness Book et qui pulvérise le précédent record établi en 2014 par le Bangladesh, 254 000 personnes seulement. Et du chanteur anonyme aux médias nationaux, en passant par les ministres, le chef de l'État lui-même, tous ont dit bien sûr leur fierté d'avoir accompli un tel record. Il faut dire que cette performance, Nicolas, intervient sur fond d'exacerbation du patriotisme indien. Le pays, vous le savez, est dirigé depuis 2014 par le gouvernement ultra-nationaliste hindou de Narendra Modi. En novembre dernier, la Cour suprême indienne a ainsi rendu obligatoire la diffusion de cet hymne national dans tous les cinémas au début de chaque film, obligeant même l'assistance à se lever. Et depuis, eh bien, on ne compte plus les spectateurs agressés et parfois interpellés pour ne pas avoir suivi la consigne.
À lundi, Michael. Merci.
Interrompre, mais on a une réception dans une demi-heure, alors allez tous vous habiller.
Et voilà!
Good morning, good morning. It's great to stay up late, good morning.
Un jour, good morning dans le monde, sur France Inter.
Il est 18h51, on part à Rome, à la Villa Médicis, qui fête cette année ses 350 ans. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir Nicolas.
350 ans et souvent la même critique, la Villa Médicis est trop chère et aujourd'hui anachronique.
Eh oui, la Villa Médicis, vous le savez, a toujours été l'objet de tous les fantasmes et de toutes les critiques. Cette sublime vitrine de la culture française à l'étranger a accueilli Ingres, Berlioz, Debussy, mais même évidemment des artistes cinéastes, écrivains contemporains. On va citer Hervé Guibert, Xavier Beauvois, Yann Pemming. Mais la commission des finances du Sénat a demandé à l'Académie de Rome de faire des économies. Alors sa nouvelle directrice Muriel Mayette a déjà décidé d'ouvrir ce qui peut sembler comme une forteresse, l'ouvrir sur la vie, sur la ville. Et elle répond à ses accusations de dépenses excessives.
Ça fait 350 ans que régulièrement on remet sur la table, est-ce que c'est bien utile, à quoi ça sert, est-ce que c'est pas trop cher, etc. Quand on parle des budgets, il faut donner des chiffres. C'est une des institutions les plus connues dans le monde et les plus fantasmées par mes connaissances. Le budget de l'Académie de France à Rome, c'est 6 millions d'euros et on en génère à peu près 2 millions. Donc en fait, on fonctionne sur 8 millions d'euros. Beaubourg, c'est 60 millions d'euros à peu près. Et là, nous, on abrite 15 artistes toute l'année. On accueille des tas d'autres artistes en résidence sur des périodes plus courtes, pendant entre une semaine et un mois. Et on fait une programmation toute l'année, qui est gratuite. Et on fait des expositions. Donc si vous voulez, il y a à un moment donné la multiplicité de ce qu'on peut proposer comme représentation de la grande culture française à Rome, une ville majeure de l'Europe, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute de son utilité.
Reste évidemment donc la question de l'avenir de la Villa Médicis, Nicolas. Car quel sens ça peut avoir pour des artistes, aujourd'hui en 2017, de venir trouver l'inspiration au milieu de l'art antique ? Muriel Mayette.
D'abord, quand on arrive dans ce palazzo, c'est une grande école de la solitude. C'est la plus grande des écoles, la plus exigeante. Une fois qu'on se retrouve là avec toute l'histoire sur les épaules, tout le monde voudrait en ressortir ayant fait un chef-d'œuvre. Et c'est difficile, parce qu'il justement, il n'y a pas de maître pour t'accompagner. Et cette école, quand tu en ressors plus grand. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la Villa Médicis permet aux artistes d'être ensemble. Par exemple, à un musicien, de se laisser influencer par un auteur. Ces croisements, ils sont incroyablement riches pour notre futur.
Et les pensionnaires de la villa, qu'en pensent-ils ? À Rome, j'ai rencontré Olivier Costa-Téphène. Avec son look de métalleux, il travaille en fait sur ce qui dérape dans la ville, dans le quotidien.
Finalement, le Colisée m'intéresse moins que l'herbe qui pousse à travers le bitume. Et je m'intéresse davantage à un graffiti, à tout ce que les gens en fait ne voient pas. Mais en fait, je pense que c'est même pas que Rome. En fait, finalement, c'est la villa. Je pense qu'ici, quand même, on s'enrichit de toute l'histoire. Je crois que c'est un lieu qui doit absolument rester. Il ne faut pas que ça s'arrête.
Autre rencontre avec Simon Roubi, qui réalise des films d'animation. Il a signé Adama et la villa lui permet d'aller beaucoup plus loin dans la création.
Ce temps de l'innovation est vraiment précieux pour réinventer l'art des prochaines années. En tout cas, c'est aussi une expérience qui se dépliera quasiment sur une dizaine d'années dans nos carrières, dans la foulée, puisque c'est les choses qu'on déclenche ici auront des conséquences plus tard.
La Villa Médicis, donc un instrument du rayonnement de la culture française à l'étranger, mais qui devra sans cesse se réinventer pour avoir un futur.
Isabelle Pasquier, merci. On rappelle qu'il y a une magnifique exposition Annette Messager en ce moment à la Villa Médicis.
Oui, et très provoque, très féministe. Oui. Allez-y, il y a des dessins, des peintures d'utérus avec des doigts d'honneur très suggestifs.
C'est jusqu'au 23 avril. Merci encore Isabelle.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'heure de l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous vous êtes penché aujourd'hui sur l'avenir et l'utilité de l'Alliance Atlantique.
Et c'est la visite de Jim Mattis, vous savez, ministre de la Défense de Donald Trump à Bruxelles, qui m'a donné l'idée de tenter de résumer les enjeux militaires qui attendent les Européens dans les années à venir. À commencer donc par le vrai lien militaire qui les unit, ça s'appelle l'OTAN. C'est d'autant plus nécessaire que Jim Mattis vient en Europe avec une seule idée en tête, une idée très thatchérienne d'ailleurs, « I want your money ». payback, c'est-à-dire obtenir plus d'argent de ses 27 partenaires au sein de l'Alliance Atlantique. Et pour être juste, ce n'est pas la première fois que les Américains nous demandent de payer plus. George Bush et Barack Obama avaient à peu près exigé la même chose, à savoir que chacun des membres de l'OTAN atteigne au moins 2% de leur richesse en dépenses militaires. Ils l'avaient simplement exprimé en termes plus diplomatiques, moins trumpiens. La première question est donc, sommes-nous loin du compte? Et là, clairement, la réponse est oui, très loin même. Sur les 28 membres de l'OTAN, seuls 4, hormis les États-Unis, dépassent cet objectif, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Estonie et la Pologne. La France, avec 1,8% de son PIB dédié à la défense, fait plutôt office de bon élève. Les autres membres de l'Alliance sont au mieux planqués à 1,5% ou au pire autour de 1%. L'Allemagne, qui est pourtant la première économie d'Europe, eh bien, se traîne à 1,2%.
Et c'est possible, Anthony, d'augmenter les dépenses militaires ?
Alors oui. Et non. Pour un pays comme, voilà, c'est toujours moi. Je ne change pas.
Alors, allez-y.
Bon. Pour un pays comme l'Allemagne, c'est clairement possible. D'ailleurs, Berlin s'y est engagé à l'horizon 2024, c'est-à-dire demain. Mais tant d'argent dans la défense allemande, eh bien, ça pose deux problèmes. D'une part, le budget militaire allemand dépasserait d'un coup et serait loin devant celui de la France ou de la Grande-Bretagne. Comme en plus l'Allemagne n'a pas d'armes nucléaires à entretenir, contrairement à Londres et Paris, l'armée allemande deviendrait vite extrêmement dominante. Et c'est une révolution copernicienne pour nous. Ça signifie en finir avec l'ordre hérité de la Seconde Guerre mondiale, qui visait à contenir les forces armées allemandes. Mais c'est aussi une révolution pour les Allemands, qui n'assument toujours pas de se remilitariser. Maintenant, il y a des pays qui ne peuvent pas ou difficilement dépenser plus. On pense immédiatement à l'Italie ou même à l'Espagne. Les deux pays se débattent avec une crise qui les a mis à plat. Est-ce bien le moment de leur demander d'acheter des chars, des F-16 et des missiles? Enfin, si les États-Unis n'ont jamais vraiment beaucoup insisté pour nous faire dépenser plus, c'est qu'au fond, ça les arrangeait. Ce sont eux qui ont le premier et le dernier mot au sein de l'OTAN, justement parce qu'ils assument l'essentiel des dépenses. Et sont-ils prêts à changer cela? Pas sûr.
D'où la première question, la dernière question, pardon, Anthony. À quoi bon dépenser plus puisque Donald Trump dit lui-même que l'Alliance est obsolète?
Alors ça, c'est la question à 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, ce serait le montant des dépenses militaires si tout le monde s'alignait sur les fameux 2%. Ce qui est surprenant avec l'OTAN, c'est combien ceux qui en sont membres adorent la critiquer, mais ne veulent surtout pas en sortir. Et pour une raison évidente. Dans l'OTAN, les 27 Européens qui ne s'entendent sur rien s'en remettent à un seul décideur, les États-Unis. Ça évite beaucoup de maux de tête, à commencer par exemple, quelle place donner à l'Allemagne, ou même quel ennemi. Imaginez les processus labyrinthiques de décision de l'Union européenne appliqué à une Europe de la défense sans les États-Unis. C'est encore trop tôt, beaucoup trop tôt. Et puis, évidemment, il y a la Russie. Entre 1989 et 2000, on a pu penser que la Russie pouvait être un voisin avec lequel discuter. On a même oublié sa susceptibilité lorsqu'on a allègrement poussé l'Alliance jusqu'à ses frontières. Le réveil a donc été particulièrement difficile. La guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée ont rappelé à la Pologne, aux Pays-Baltes et à tout l'ancien bloc soviétique les bonnes raisons qu'il y avait d'appartenir à l'OTAN. Et croyez-moi, ça justifiait leurs yeux, toutes les concessions, y compris bien sûr budgétaires.
Anthony Bélanger, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur le livre formidable que publie le philosophe Ruben Ogien, consacré à sa propre maladie, un cancer capricieux et chaotique, dit-il. Ce point de départ ouvre, on va le voir tout à l'heure, sur une série de questions profondes, traitées avec ironie. Quel est le sens de la maladie, si elle en a un? Ce qui n'est pas sûr. Est-ce que ce qui ne nous tue pas nous rend vraiment plus forts? Quels sont exactement les rôles des patients et des médecins dans cette pièce de théâtre qui est une maladie? Je le redis, le livre est formidable, mais Mille et une nuits chez Albin Michel. Malade, ancien malade, médecin, dialoguer avec Ruben Ogien tout à l'heure. 01 45 24 7000.